siete. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
La première chose que je peux vous dire.
Entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan.
Charline Colette.
Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos.
La première chose que je peux vous dire, c'est que je suis très heureuse d'être à Marseille, avec cette lumière, avec la mer et avec du temps pour dessiner tout ça.
Bonjour, bienvenue à tous. La première chose que je peux vous dire, deuxième, puisque aujourd'hui nous recevrons notre deuxième invité, Charline Colette. Bonjour Charline.
Bonjour.
Charline, tu es illustratrice, auteur-illustratrice. On va voir peut-être ensemble ce que veut dire d'être auteur, ce que ça veut dire d'être auteur-illustrateur, auteur-illustratrice, pour les différents projets que tu mènes, des projets donc, qui partent de l'illustration, mais qui vont aussi vers le récit, l'histoire à raconter et puis du texte qui va aussi surgir de tout ça. Je vais te présenter en quelques mots, si tu es d'accord, mais comme ça c'est une biographie que tu nous as confiée, je pense qu'il n'y a pas d'erreur dedans. Ça n'est pas fréquent. Tu as passé ton enfance dans la campagne franc-comtoise.
Exactement.
Chose que tu soulignes à chaque fois qu'on t'embrasse, parce qu'on ne t'embrasse pas du même côté qu'ici à Marseille, apparemment, sur les joues. Tu as commencé par étudier la gravure sous toutes ses formes à l'école Estienne, puis la bande dessinée Angoulême, puis la peinture aux Beaux-Arts de Paris, puis l'illustration aux Arts décoratifs de Strasbourg, donc à peu près toutes les techniques. École des Arts déco de Strasbourg qui est... une pépinière d'auteurs illustrateurs. Il y en a certains qui d'ailleurs vivent aujourd'hui à Marseille ou qui travaillent à Marseille. Tu as aussi fait un petit bout d'études hors illustration, hors beaux-arts à l'Institut d'études politiques à Strasbourg, avec un mémoire sur les conditions socio-économiques des illustrateurs.
Exactement.
Donc, tu n'en es pas complètement sorti. Et puis, depuis ton premier album, J'ai mal partout, c'était en janvier 2015, il y a différents axes professionnels que tu mènes autour de la réalisation de livres en tant qu'illustratrice, coloriste parfois pour le Baron Perché, l'École des loisirs, comme Bourakis. Tu nous raconteras un petit peu ça, des couvertures de livres, des illustrations d'articles pour la presse, aussi bien adultes pour les revues 21 par exemple, ou enfants, adolescents comme Biscotto, où il n'y a pas uniquement de l'illustration, mais il y a aussi des articles en quelque sorte illustrés, Nyctalope, et des ateliers que tu mènes. Tu es à Marseille pour une résidence auteur-illustratrice, suite à l'appel à projet qu'on a mené à la Marelle avec Photokino pour un album qui s'appelle Brillant Bolide, ou Bolide, le titre probablement va encore évoluer, qui est un projet de livre jeunesse qui s'articule justement sur le texte et l'image. Et on va parler de ce projet. Alors, comme d'habitude, je peux dire d'habitude puisque c'est la deuxième, pour cette revue radiophonique, on va naviguer entre différentes choses. Un temps où tu vas expliquer le projet, plus qu'un temps de lecture, chose qu'on va essayer de pratiquer avec les auteurs qui ont des textes un petit peu plus longs. Là, toi, tu n'as pas encore de texte. Et puis aussi un questionnaire, une sorte d'autoportrait ludique à partir de différents éléments qu'on t'a suggérés. On a déjà entendu un. La première chose que je peux vous dire, c'est arrivé à Marseille. J'aimerais peut-être qu'on reste un tout petit peu là, justement, avoir du temps, mais aussi au fond avoir cet espace particulier, cette lumière particulière qu'a Marseille. C'est quelque chose que d'emblée tu avais en tête avant même de venir, parce que tu connaissais un petit peu Marseille, te dire c'est pas mal de travailler dans ces conditions-là. On l'accueille en résidence bien sûr, mais dans cette ville-là.
Alors oui, c'était pas mal, d'autant plus parce que je venais de passer un mois à Bruxelles et la lumière n'est pas exactement la même, même si c'est aussi une ville très agréable. Alors oui, ça fait du bien d'avoir un peu de soleil, même si c'est très dangereux pour le travail.
Ah, c'est pas le soleil qui est dangereux, c'est peut-être tout ce qui va autour. Bon, oui, voilà, alors c'est du coup, voilà, tu es là et tu vas nous commenter un petit peu ce travail que tu fais, mais je voudrais peut-être commencer par les quelques questions auxquelles tu as répondu, en particulier celle-ci, parce que peut-être que avec les études que tu as suivies, il y a aussi un lien. La question, c'était de savoir s'il y avait un auteur fétiche, ou culte, ou référence, ou que tu vénères, ou que tu apprécies particulièrement. Allez, n'allons pas jusqu'à la vénération, et dans ce cas, pourquoi ?
Alors, à cette question, j'avais répondu Nicolas Bouvier. Alors, c'est toujours une question extrêmement difficile, hein, quel auteur on peut préférer, mais Nicolas Bouvier, en fait, j'avais découvert cet auteur quand j'étais à Estienne. On avait fait un travail sur la question Orient-Occident. Et c'était à cette occasion-là qu'on avait lu, entre autres, Poisson-Scorpion, enfin, L'usage du monde. Et en fait, ça ne m'a pas vraiment quitté.
Voilà. Ouais. Quand on regarde les dessins que tu as proposés pour ce projet, Brillant Bolide, sont des paysages. Et tu as aussi proposé pour illustrer la revue papier un paysage. Et du coup, je me dis, tiens, c'est vrai que chez Nicolas Bouvier, il y a aussi cette question du paysage, de tous ces paysages qui traversent. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle aussi pour
bien
ça ?
Bien sûr. Et je pense notamment qu'on n'a pas forcément besoin. Bon, là, je suis pas vraiment en accord avec Nicolas Bouvier qui lui a énormément voyagé, mais moi, je suis pas sûre qu'on ait besoin de voyager toujours à l'extérieur. On peut aussi voyager à l'intérieur de soi pour chercher des images et c'est ce que j'essaie de faire pour la peinture.
Et on verra d'ailleurs pour ce projet Brillant Bolide qu'il s'agit de ça aussi. Mais tu as même une citation de Nicolas Bouvier.
Alors oui, j'en ai une. Alors est-ce que c'est moi qui la lis ? Oui. D'accord. Alors, avec ce pain, du thé, des oignons, du fromage de brebis, une poignée de cigarettes iraniennes et les longs loisirs de l'hiver, nous étions du bon côté de la vie.
Ah, le bon côté de la vie. Alors bon, ça pourrait être aussi la plage à Marseille, mais une façon de profiter des belles choses de la vie. Il y a quelque chose d'assez joyeux, effectivement, dans ton travail, je trouve. Et il me semble que ça... Ça rentre en correspondance aussi avec Nicolas Bouvier. Alors, une autre question. Un coup de cœur artistique.
Alors, pareil, hein, c'est pas vraiment un coup de cœur, parce que j'ai parlé d'Anouk Ricard, mais Anouk Ricard, j'aime absolument tout ce qu'elle fait, donc c'est un petit peu plus qu'un coup de cœur.
Un
coup de cœur général. Non, mais j'essaye de suivre vraiment son travail, et à chaque fois, c'est réjouissant et je me suis dit, tiens, si ça se trouve, il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire son nom.
Alors pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais en dire pour parler de son travail ?
Déjà, c'est très drôle, mais ce n'est pas uniquement drôle. Je trouve que c'est très fin, et en plus, c'est beau, voilà.
Et comment est-ce qu'on peut voir son travail ?
Oh ben c'est très simple, hein. Il y a plein de livres en librairie, il suffit de taper son nom sur internet et on tombe dessus, voilà.
D'accord. Alors ça c'est son travail, mais on va peut-être parler un petit peu du tien. Tu as proposé, alors là je vais te demander un exercice un peu particulier, mais c'est vrai que pour la revue on demande un texte inédit aux auteurs. Toi tu nous as proposé des dessins inédits. J'aimerais bien peut-être qu'on arrive à parler de ces illustrations, de ces dessins très colorés, qui proposent des paysages, justement, qui proposent, je dirais, une lecture de l'horizon, puisque pour chacun des paysages que tu nous as proposés, des dessins, alors ce sont des gouaches, tu vas commenter la technique aussi. On a une ligne d'horizon. On a un paysage, mais avec une ligne d'horizon. Et je trouve ça très intéressant, malgré les différences de traitement. Voilà, il y a celle-ci qui s'appelle Forêt de pierre, où ce sont des taches de couleurs très colorées qui représentent des collines, de l'eau, des montagnes. Voilà ce que, j'en lis, c'est la Franche-Comté, mais en jaune, en rouge, en vert, donc c'est un peu plus coloré que la Franche-Comté. Et puis, une autre, juste à la suite, Marseille Essentielle, qui est plus réaliste peut-être dans les couleurs, enfin plus proche de coloris réels, et qui est beaucoup plus pastel, je dirais. Donc il y a une différence de traitement, mais malgré tout, dans les deux, c'est de la gouache, et dans les deux, il y a cet horizon. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de ça, à la fois cette thématique qui se retrouve, et puis de la technique que tu utilises, qui est différente là, même si c'est à chaque fois de la gouache, visiblement il y a un traitement différent.
Alors c'est toujours assez compliqué d'expliquer comment une image arrive, comment ça se fait qu'on a envie de dessiner ça plutôt que ça. Ces peintures de paysage, la première que j'ai faite, c'était après avoir voyagé en train, donc s'il y a quand même une affaire de voyage derrière, et il faisait froid, c'était l'hiver, et il y avait de la neige, et c'est vrai que du coup il y avait cette affaire d'horizon, peu de couleurs, mais quand même assez vive, et après, après, comment expliquer quand je peins, je commence par effectivement faire un fond, et puis ensuite j'essaye de créer un espace aussi bien intérieur qu'un espace qui peut être réel, comme avec ces peintures de Marseille, où là, je suis sur place, je vois quelque chose qui me plaît, je vais prendre une photo, et puis ensuite je vais essayer de voir comment je peux travailler ça à la peinture. Ouais.
Et alors ces couleurs, justement, est-ce que c'est des univers intérieurs très différents ou est-ce que c'est l'effet provoqué par la sensation du moment que tu essaies de retranscrire?
Je pense que c'est plutôt une affaire de jonglage, je le vis vraiment comme un jeu, c'est-à-dire que je pose une couleur et ensuite j'essaie de voir quelle couleur je peux mettre à côté. Une fois qu'il y en a deux, il faut trouver la troisième, une fois qu'il y en a trois, et ça se complexifie de plus en plus, et des fois ça marche et des fois ça marche pas du tout, et je recouvre le tout et je recommence.
C'est une sorte de logique interne à chaque image en fond.
Oui, un petit peu, mais c'est surtout un jeu, c'est quelque chose qui me...
Alors, puisque tu parles de jeu, je voudrais que tu en dises plus sur ce projet, qui est un projet de livre dont tu seras pour la première fois et l'auteur et l'illustratrice, Brian Bodide, qui a déjà un éditeur, puisque ce sera Artichaut.
L'Artichaut,
mais qui part encore, qui est en cours d'écriture, en cours de dessin ici à Marseille en résidence. Est-ce que tu peux dire d'où part ce projet?
Alors le projet, il part de loin, il part de cette première peinture dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai mis pendant longtemps, pendant quelques années, ces peintures de côté, parce que c'est vrai que je savais pas trop ce que je pouvais en faire, au jour le jour. Il faut quand même réussir à travailler un peu, et quand on est dans l'illustration, j'étais plutôt appelée pour des affaires de dessin, et pas forcément de peinture, et encore moins de peinture abstraite. Mais ça restait dans un coin de ma tête, j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose, et puis en fait c'est Chameau de l'Artichaut qui m'a dit écoute, ça serait intéressant quand même que tu réfléchisses à ça plus sérieusement. Et alors j'ai réfléchi pendant longtemps et puis je me suis dit non, mais en fait il faut un voyage, il faut une espèce de travelling, et puis il faut de la peinture, et donc j'ai pensé comment est-ce que je pourrais articuler tout ça, et je me suis souvenu que petite je jouais énormément avec des petites voitures, et que quand on joue avec une petite voiture, on est dans le paysage, on est dans la couleur, on est dans le relief, et puis alors j'ai eu envie de raconter ça, juste un moment de jeu avec une petite voiture dans un paysage.
Donc c'est ça l'histoire, c'est une petite fille qui joue avec des voitures et qui imagine ces paysages que nous en tant que lecteurs on va voir avec ses yeux, mais du coup c'est un voyage intérieur. Ce que tu disais tout à l'heure à propos de Nicolas Bouvier, ça rassemble un peu les deux au fond.
C'est tous les deux à la fois, c'est-à-dire que à la fois elle est vraiment la voiture, elle est vraiment en train de voyager, même si c'est sur un périmètre très réduit, elle voyage.
Un petit jardin.
Un petit jardin, ouais. Voilà, autour d'une petite maison. Mais en même temps, il y a cette affaire de voyage intérieur, c'est-à-dire que quand la voiture va passer sur une taupinière, elle va croire qu'elle est en train de gravir l'Everest.
D'accord, c'est pas mal quand même. Non. Alors, je propose qu'on écoute à présent un extrait musical que tu as choisi. Et tu vas nous dire qui tu as choisi et peut-être pour quelle raison aussi.
Alors, j'ai choisi Papel de Plata de Dinti Limani. Alors, puisque c'est une chanson que je trouve très belle, déjà. et puis, parce que j'ai, avec Myriam Raka, on a un projet dont on parlera peut-être tout à l'heure, de découvrir des musiques du monde pour la jeunesse. Alors, on ne sait pas encore trop si ce sera un livre, une application ou autre, mais on aimerait faire découvrir ce genre de musique en tout cas.
D'accord, mais on va même entendre un petit entretien avec elle à la suite de cette musique.
Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera. Para escribir una carta a mi negra más querida. Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? ¿Hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay, palomita, ay, corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo?
Voilà, on a changé d'endroit. Nous sommes à présent dans ton appartement de résidence, Charline.
En plein soleil.
En plein soleil. Et nous sommes en compagnie de Myriam Raka, que tu as invitée à passer quelques jours avec toi. Je voudrais que tu nous la présentes.
Alors, Myriam, donc, qui est assise en face de nous, Myriam, elle travaille dans le documentaire. Elle est donc réalisatrice, mais elle est aussi musicienne. Et elle est aussi musicienne, plutôt. Les violoncellistes et voilà.
Et tout ça, alors, ça fait beaucoup de choses, mais où sont les croisements? Alors, pourquoi est-ce que tu as envie et même pourquoi tu travailles déjà avec elle?
Alors les croisements, c'est que on a toutes les deux un véritable amour pour les musiques du monde. Alors peut-être qu'on précisera ce terme un peu plus tard, mais on avait envie de faire quelque chose. Avec ça, on savait pas trop quoi, et puis on s'est dit, ah bah tiens, toi tu fais de la musique, mais tu sais aussi manier une caméra, et tu sais aussi prendre du son, et moi je peux faire des dessins, Donc essayons de combiner tout ça. Et donc on a eu l'envie de monter un projet d'application numérique pour la jeunesse, mais que je pense que Myriam le présentera vraiment mieux que moi.
Ah ben on va écouter Myriam.
Oui, alors ça s'appelle Agar. Et c'est un projet de, comme disait Charline, un projet d'application jeunesse où on suit les aventures d'une petite fille qui s'appelle Agar, qui part en voyage aux quatre coins du monde à la découverte de différents types de musique et donc différents types d'instruments, de genres musicaux. Et ouais, ce qui nous tenait un peu à cœur, je pense, pour ce projet, c'était... On est parti un peu d'un constat, en fait, de se dire que... En général, la différence est représentée de façon... On est toujours dans un grand écart, disons. On est toujours dans... Ou bien l'exotisme, la différence extrême, l'incompatibilité, ou alors dans une banalisation, on est tous pareils, on a tous... on est tous amis, on est tous... Donc, on s'est dit que la musique, c'était vraiment une façon incroyable de complexifier tout ça, en fait, et de tisser des choses, de montrer que, oui, il y a des liens très surprenants entre des pays complètement éloignés, des cultures complètement éloignées. On peut retrouver le même instrument, le même type d'instrument, une cornemuse, on peut la retrouver... Oui, en Écosse, c'est ce qu'on connaît tout le monde, mais après, ça existe dans le sud de l'Italie, la Zampogna, ça existe dans les pays des Balkans. Et voilà, il y a plein de similitudes et de différences comme ça qui complexifient beaucoup nos façons de coexister dans le monde. Et ça peut passer par la musique et ça peut passer dès le plus jeune âge, malgré ce qu'on veut nous faire croire. Les enfants ne sont pas... Ils ne sont pas bêtes et peuvent comprendre beaucoup plus de choses que ce qu'on peut penser parfois. Donc voilà, on avait envie un peu de se lancer avec cette base politique, en tout cas, derrière, et puis une envie en plus de s'éclater avec de la musique de tout genre.
Oui, parce que c'est pas uniquement la musique dite traditionnelle ou folklorique, du coup. C'est un peu... Parce que peut-être que c'est là qu'on peut parler aussi des musiques du monde... qu'est-ce que c'est exactement les musiques du monde? Parce que bon, voilà, c'est toutes les musiques en dehors de la France, en fait, les musiques du monde.
Oui, et y compris la France. On essaie vraiment de ne pas se centrer. L'idée, c'est que ça aille dans tous les sens. Ça ne veut pas être une compilation d'ethnomusicologie. Ça ne veut pas être une... on n'a aucune prétention d'exhaustivité. D'ailleurs, on n'est pas des musicologues, donc... Bien sûr, on essaiera de s'allier avec des gens plus compétents que nous pour ce projet, mais on n'a vraiment pas envie de se mettre les limites. Voilà, on peut passer d'un morceau traditionnel, d'un chant de travail, à un morceau instrumental un peu rare, à un gros hit des années 80 dans un même pays, sans que cela ne pose aucun problème. Au contraire, ça... L'idée, c'est que ce soit funky, quoi que c'est.
D'accord. Et Charline, comment finalement cette envie d'y associer le dessin est intervenue? Qu'est-ce qui a pensé de vous deux?
En fait, au tout départ, on avait pensé travailler sur faire un livre. Au tout départ, et puis on s'est dit, c'est quand même très embêtant de faire un livre pour parler de musique. On s'est dit, ce serait quand même bien d'avoir des pistes sonores. Et puis, alors on s'est dit, peut-être que le plus simple, c'est de penser le numérique, de travailler avec ça. Et puis l'application, il y a le côté ludique quand même, il y a le côté jeu qui nous plaît pas mal. Myriam, pour le coup, a beaucoup joué et joue encore beaucoup. Et du coup, voilà, c'est venu tout seul. Mais on s'est dit aussi peut-être que ça pourrait très bien être des mini-émissions de radio, par exemple, qui pourraient accompagner ça. On a pensé aussi au blog. Enfin, la forme, elle est encore à définir. Mais l'idée du dessin, la place du dessin là-dedans, c'est travailler le dessin comme Myriam travaille l'image dans ses documentaires, c'est-à-dire être sur place, par exemple, dessiner les musiciens, avoir un petit carnet de bord, avoir tout ça, et puis La même chose pour Myriam qui prendrait des sons et voilà. Enfin, et, ouais. Une envie de reportage, une petite envie de reportage.
Ouais, voilà, voilà. Un peu comme un reportage. Où est-ce que vous en êtes là dans... C'est le début, vous commencez à avoir déjà beaucoup de matière sonore, ou alors au contraire, vous vous dites, oh là là, ça va être énorme, on va jamais arriver à faire quelque chose de représentatif.
Ben, disons que là, on en est à une conception générale du dispositif, de ce à quoi ça va ressembler. On a pas mal de... Charline a déjà fait des flanches très belles, c'est-à-dire, je ne suis pas très objective. Et donc, on a une conception générale du dispositif, de ce à quoi ça va ressembler, le type de déplacement, de dynamique de jeu qu'il va y avoir. On a les bases, disons, les piliers de l'application. Après, on a déjà pré-scénarisé quelques exemples. Mais là, ce qu'on voudrait vraiment, ce qu'on essaye de faire, et d'ailleurs on est en attente d'une réponse d'une résidence de l'Institut français, justement, pour essayer de faire ça, c'est partir sur place dans un pays, voilà, de commencer par... le pays du début n'a pas tellement d'importance, en fait. On a juste très affamé de réalité, en fait. On a envie de rencontrer des gens, d'écouter de la musique qu'on ne connaît pas encore, d'avoir vraiment cette approche. C'est pour ça que Charline parlait aussi du blog. On s'est dit que le blog, c'était un bon début pour s'imposer une régularité aussi. Voilà, chaque semaine, on publie quelques dessins, quelques prises de son, quelques entrevues avec des musiciens, et commencer à récolter vraiment de la matière documentaire, parce qu'on peut dire que c'est documentaire, même si c'est dessiné et scénarisé. Et voilà.
Est-ce que le blog permettrait peut-être aussi, là je m'adresse à toutes les deux, une forme participative, c'est-à-dire que ça permettrait peut-être aux gens de vous signaler aussi des musiques, des pays, des croisements, des rapprochements inattendus.
On a pensé à ça aussi pour, dans l'application, au cœur même de l'application, on avait pensé à un espace où l'enfant qui serait en train d'utiliser cette application, de jouer avec cette application, pourrait lui-même ou elle-même enregistrer et faire venir dans l'application un son que lui-même aurait choisi. Par exemple, on imaginait qu'il allait aller, on va dire qu'on est en Alsace, et qu'il y a sa grand-mère qui chante, il l'enregistre, il donne un titre, et puis ça rentre dans l'application. Il y aurait bien sûr quelques filtres, et voilà. Mais l'idée d'un fond qui serait participatif, ça... Elle est déjà là, oui.
D'accord. Alors, dans l'appartement, il y a une cheminée, et sur la cheminée, il y a une épinette des Vosges. Alors, je ne sais pas, elle est à qui, cette épinette ?
Alors, elle est à moi, et c'est Myriam et mes amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire, voilà.
Il n'y a plus qu'à jouer, maintenant.
Il n'y a plus qu'à jouer, effectivement, oui.
Myriam, ça se pratique comment, cet instrument ?
Je ne suis pas une experte non plus, mais ça se joue, donc c'est un des instruments de la famille des sitars, hein, donc encore une fois, c'est un instrument qui se trouve décliné de plein de formes différentes, mais un peu partout dans le monde, du Vietnam à l'Afrique noire, enfin, partout, et jusque dans les Vosges, et donc l'épinette des Vosges, ça se pose, donc c'est une sorte de caisse de résonance assez fine, c'est un instrument en vertical comme ça, où il y a des bourdons et des chanterelles. Donc les bourdons, c'est pour les cordes qui font les basses, et les chanterelles qui sont... voilà, et on le met sur une surface plane qui fonctionne normalement de caisse de résonance. Donc si c'est une table, le mieux c'est des tables en bois où le son puisse résonner, vibrer, et on le joue... avec une main, on pince les cordes comme dans une guitare,
et à plat,
avec l'autre main, on joue comme, presque comme si c'était du piano, du coup, à la verticale.
D'accord. Alors, bon, ça c'est le projet musique pour les enfants, parcourir le monde et établir des croisements entre ces différentes pratiques musicales dans le monde entier. Il y a d'autres choses que vous avez envie de faire ensemble ou que vous avez déjà réalisé ensemble. Je sais qu'il y a un regard sur le travail que tu as en cours, Charline, que porte Myriam. Peut-être qu'on peut en parler un peu aussi pour voir comment finalement ce brillant bolide est perçu par Myriam.
Ah, moi Eh bien, oui, non, c'est très intéressant parce que c'est vrai que je connais le projet depuis un peu ses... Pas ses toutes origines, je pense que Charline avait l'idée depuis un moment, mais en tout cas, quand elle a commencé à mettre en place concrètement les choses, c'est vrai que j'étais à peu près déjà là. Et donc, je suis l'évolution et c'est vrai que je pense que... Voilà, c'est pas un regard particulier, mais c'est vrai que je pense que pour elle, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui, depuis le début, est là et par intervalle, perd un peu de vue le projet et revient. Et donc, je peux être proche de ses intentions initiales tout en voyant comment elle évolue. Et je peux faire un peu un. Voilà, être un peu un maître de. Ouais. De est-ce que ça s'éloigne trop de ce que tu m'as dit?
L'étalonnage.
L'étalonnage. Puis c'est bon, c'est vrai que c'est. Moi, je suis dans les métiers du cinéma. On se pose souvent des mêmes questions. C'est vrai que l'aboutissement technique est très différent, mais au final, c'est les mêmes questions qu'on se pose.
La lisibilité, la compréhension, le rythme, des choses comme ça.
La balance entre le réel et l'imaginaire, tout ça, c'est...
Bon, et Charline, c'est d'une aide précieuse, ce regard de
Plus que précieux, oui, plus que précieux. Et c'est vrai que plus ça va, plus je me rends compte, parce que moi aussi, je lis ces projets de films, et je suis aussi son travail, et c'est vrai que je me rends vraiment compte des ponts qu'il peut y avoir, et de la richesse que ça peut être que d'aller s'intéresser à fond, même à la construction d'une œuvre, qu'elle soit musicale ou peu importe, ou même de n'importe quelle architecture, même d'un bâtiment, parce qu'on se dit, ah oui, c'est vrai qu'il faut mettre les fondations avant. Ah bah oui, mais c'est pareil dans ton livre, en fait. Et c'est toujours vraiment, je trouve, intéressant de voir des projets en construction, quels qu'ils soient. Enfin, moi, je trouve ça très réjouissant.
On aime ça aussi, de l'autre côté. Dernière chose, peut-être, Myriam, où est-ce qu'on peut voir ce travail, les autres travaux, les documentaires? Est-ce qu'il y a... un site, est-ce qu'on peut envoyer les gens sur ce site, par exemple?
Oui, alors il y a un site tout fraîchement fait. C'est mon prénom, nom de famille, donc myriamraca.tumblr.com. Et Raca, ça s'écrit RACCAH. Et voilà, on peut y voir un film complet, et sinon c'est plus des descriptions de projets en cours et d'autres travaux aussi, plus dans les captations. J'ai un projet de documentaire radiophonique en cours aussi, donc c'est voilà. Et on peut suivre un peu les traces de tous ces différents.
D'accord, et bien merci beaucoup. Merci Charline pour cette invitée.
Merci Myriam. Merci.
On va repartir dans les studios de Radio Grenouille.
Voilà, donc après ce petit dialogue, Charline Colette avec Myriam Raca pour les projets que vous avez en cours, on va poursuivre notre conversation et poursuivre peut-être un peu plus rapidement le questionnaire qu'il y a dans la revue avec... voilà, des petites choses peut-être plus liées à ton arrivée ici, mais pas uniquement. Par exemple, est-ce que tu as un a priori sur Marseille avant de venir, parce que là c'est déjà un petit peu tard, tu es là, mais avant de venir, est-ce qu'il y avait un a priori sur Marseille?
Alors, pas vraiment, parce qu'en fait j'étais venue il y a très longtemps, parce que ma sœur habitait dans la même rue où je suis logée en résidence.
Ah, oui,
Donc non, pas de grand a priori.
Pas de grand, bon, non. Ça c'est plutôt bien ça. Est-ce que, alors d'une manière... général, est-ce que tu as une journée type au travail? Est-ce qu'il y a un ordre dans lequel tu fais les choses quand tu es au travail ou au quotidien, après tout, dans ta vie, qui te permet peut-être de travailler ou qui te permet de rêver, de penser ou de te mettre en condition de travail?
Alors, un ordre... Bon, j'aimerais bien. Je suis jamais parvenue jusqu'à maintenant. Mais j'ai remarqué en tout cas qu'il fallait pas que j'aie de rendez-vous dans la journée. Et que j'ai au moins une journée pleine, voire plusieurs. Alors là, c'est le rêve total pour pouvoir commencer à travailler convenablement. Mais bon, c'est un peu une vie d'ermite, mais on peut équilibrer ça avec d'autres jours
plus...
c'est la continuité, enfin, le temps que tu peux avoir sans coupure qui
sans
compte
coupure,
donc
surtout.
Le plus.
Ouais, sans coupure, mais ça ne veut pas dire que je reste derrière mon bureau, pas du tout. Mais c'est simplement, s'il y a quelque chose qui s'allume, une petite étincelle, elle aura le temps de se développer. Bon, des fois, il n'y a rien.
Et à quel moment tu prends tes pinceaux à quel moment, d'un seul coup, tu dis, bon là, faut que je me mette à la table et...
Non, je m'y mets en général, je m'y mets le matin, j'essaye un truc, si ça marche pas, j'attends un peu et puis je réessaye et puis bon. Et puis le moment où ça marche, c'est quand je me rends pas compte de l'heure qu'il est et bon, là c'est pas mal et c'est à ce moment-là qu'il faut surtout pas arrêter parce qu'on a un rendez-vous pour telle ou telle raison, voilà. Oui. Donc,
Et si ça marche pas, là on a beaucoup parlé de pinceaux de peinture, de gouache, mais on a vu que tu as utilisé et appris quantité de techniques, est-ce que ça peut t'arriver aussi pour justement déclencher les choses, de changer de technique, d'essayer de me dire bon ben voilà, ça marche pas avec la gouache, je sais pas, tiens, je vais graver du carton ou je vais passer au dessin.
Alors, pour les peintures, j'ai pas l'habitude de faire des croquis. Alors là, ça a été une grande question pour le livre, parce que là, on est donc dans une affaire de narration. Donc, a priori, il faut que les images se suivent. Alors, les premières semaines de résidence, je les ai passées à faire un chemin de fer au crayon de couleur. Et puis ensuite, j'ai appelé Chameau, donc mon éditrice, et puis elle m'a dit, arrête tout ça, prends tes peintures. Et puis, commence à peindre, et ça va beaucoup mieux depuis
que tu me suis.
Oui, depuis ça va mieux.
Et l'histoire, c'est-à-dire que là, il va aussi y avoir des textes, donc il y a un récit à raconter. Comment ça se passe de ce côté-là?
Alors,
est-ce que ça vient assez facilement ou c'est plus compliqué?
Alors au début, j'étais partie sur quelque chose d'assez écrit, et puis plus ça va, plus c'est en train de se transformer en onomatopée. Donc quelque chose de très sonore finalement.
Oui.
Voilà, bon, pour le moment, les images se font et se défont parfois, et puis je crois que le texte il vient quand il veut venir, mais il n'y a pas de. Je m'oblige à rien à ce niveau-là pour le moment. Enfin.
Ouais, du coup, je t'imagine pas mal avec des onomatopées en petite fille bougeant tes bolides miniatures et faisant vroom, ce genre de truc, quoi, c'est un peu ça.
Exact. Ouais. Et j'essaie d'interroger mes neveux pour savoir quels étaient les bruits qu'ils faisaient avec leur petite voiture. Alors c'est assez amusant.
D'accord. Voilà, je voudrais qu'on écoute aussi les personnes qui travaillent à Photokino, puisqu'ils t'ont invité en résidence conjointement avec la Marelle pour monter ce projet, travailler sur ce projet. Et puis, ils t'ont également invité à participer à des ateliers, une exposition pour le festival Latana Magica, ici à Marseille, au studio Photokino. Et on va écouter un peu le regard qu'ils portent sur ton travail. Nous sommes dans le studio Photokino, qui est dirigé par Vincent Tussé-Henrès. C'est l'association Photokino que tu diriges, Vincent?
Oui, c'est une association qui a été créée en 2000. Depuis 2004, nous organisons un festival qui s'appelle Laterna Magica. Et puis, depuis 2011, nous avons ce lieu, effectivement, le studio Photokino, qui est un lieu qui accueille expositions, ateliers, rencontres. Un lieu situé dans le centre-ville de Marseille. Et à partir duquel on gravite dans le centre de Marseille et même un peu plus loin. On collabore avec pas mal de lieux, mais c'est vrai que le studio reste un peu le cœur de notre activité depuis ces années-là.
Et votre activité, c'est essentiellement un travail sur l'image, l'illustration, les arts graphiques, la vidéo, le cinéma. On est aussi en compagnie de Karen Louis. Karen, il y a une exposition là accrochée autour de nous dans ce studio cette semaine, enfin un petit peu plus longue cette semaine d'ailleurs.
Oui, on est entouré de jouets, de livres et d'affiches qui ont été créés par un designer britannique qui s'appelle Fridoun Chapour. Donc l'exposition vient juste de commencer et elle est sur nos murs jusqu'au 22 janvier, j'en profite pour le préciser. Donc c'est un designer qui n'est pas très très connu dans le milieu, mais en fait on connaît pas mal ses images sans vraiment savoir ce qu'il a fait, puisque c'est assez proche de l'esthétique des années 50, 60, 70, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de formes graphiques, beaucoup d'aplats. Donc c'est un univers assez ludique, assez joyeux, et on a eu la chance de la voir ici aussi dimanche, enfin ce week-end pour l'inauguration. Et c'est un personnage aussi très très touchant et qui nous a fait l'honneur et le plaisir de venir parler de son travail et de tout son parcours, et qui est vraiment marqué par sa création et ses enfants aussi, qui ont beaucoup inspiré cet artiste, qui est toujours un grand enfant d'ailleurs, et qui préférait jouer avec les enfants pendant le vernissage plutôt que de répondre aux questions de la journaliste.
Alors là, ça donne un petit peu l'esprit du lieu, il me semble, cette joie et ces couleurs et cet aspect ludique, même si évidemment toutes les expositions et tous les artistes que vous invitez sont pas forcément du même univers, mais ça nous rapproche, il me semble, du travail de Charline Colette, qui est peut-être aussi dans ce travail sur la couleur, sur la place, sur quelque chose d'assez ludique. Donc peut-être, Vincent, tu pourrais nous dire comment vous avez eu envie d'accueillir un auteur-illustrateur, là en l'occurrence une auteure-illustratrice, sur une période peut-être plus longue que ce que vous pratiquez précédemment, même s'il y a déjà eu des expériences et des tentatives de travailler peut-être avec des artistes de manière plus prolongée que juste une exposition.
Oui, c'est vrai que notre lieu, même si on y est très bien et qu'il nous convient parfaitement, ne nous permet pas de mener en parallèle une programmation faite d'ateliers, d'expositions, etc. et d'accueillir sur le même temps, dans le même lieu, un artiste en résidence. On n'a pas vraiment de lieu de travail nous-mêmes. On trouve des coins dans le lieu pour essayer de travailler où on peut trouver une place. Mais c'est vrai que les dispositifs qu'on a mis en place ces dernières années n'étaient pas véritablement satisfaisants de ce point de vue, puisqu'on collaborait avec des artistes qui étaient sur des périodes un peu plus longues, effectivement, qu'à l'accoutumée sur Marseille, mais en même temps n'arrivaient pas à véritablement collaborer en proximité avec nous. Et ce dispositif qu'on a mis en place avec la Marelle cette année nous permet ça, d'accueillir donc Charline durant 2 mois, de pouvoir la voir très régulièrement puisqu'elle est logée et travaille à quelques dizaines de mètres du studio. Et avec elle, on continue d'organiser des temps de médiation aussi avec le public, de rencontres qui sont assez utiles à la fois pour nous et pour elle, pour un peu faire une sorte de point d'étape un peu dans son travail qu'elle réalise ici. Elle connaissait pas vraiment Marseille, il me semble. Elle arrive de Paris, donc il y a une sorte de phase d'adaptation un peu comme ça. Elle est un peu décrochée de son environnement habituel, et c'est vrai que c'est un contexte un peu particulier pour le coup pour travailler, pour se mettre au travail sur cet album, mais qui permet justement dans cette bulle qu'on offre à l'auteur-illustrateur qu'on accueille, dans cette bulle il y a de l'inventivité, de la créativité à trouver. Et le choix de Charline effectivement se trouve bien dans notre programmation du mois de décembre, puisque, comme tu l'as dit, Fredoun Chapour, c'est aussi un univers qui est fait de simplicité et à la fois d'élégance, de couleurs très chaudes et très vives, mais sans être de tomber dans une forme de naïveté un peu condescendante à l'égard du jeune public. Là, on est vraiment dans un regard fait de tendresse. Et je trouve que cette tendresse, cette subtilité, on la retrouve aussi dans le travail de Charline. Elle travaille, son travail est composé essentiellement de formes molles, comme ça, qui complètent les images, qui les forment, qui leur donnent un peu leur géométrie, et avec des petits personnages qui s'y baladent. Et c'est vrai qu'on a envie de suivre ces petits personnages, donc il y a vraiment un aspect ludique, un véritable jeu qui s'instaure entre elle et le lecteur, je trouve. Et puis aussi un rapport aussi à l'objet, c'est-à-dire que c'est toutes ces masses que l'on retrouve dans les images de Charline, on pourrait aussi les considérer comme des objets. Je pense que peut-être qu'elle-même les envisage comme ça, comme des masses de couleurs qui viennent donner une sorte de relief, de volume au paysage qu'elle dessine. Donc voilà, ça rentre assez bien en complémentarité avec Fredoun. En même temps, c'est pas du tout un choix qu'on a fait au niveau de la sélection à cause de ça. Hein. C'est le hasard qui fait bien les choses. Mais c'est vrai qu'on a eu de très belles candidatures. On a eu pas mal de dossiers aussi. Mais celui de Charline nous a touché plus particulièrement. Tous les membres du jury étaient assez charmés et curieux aussi d'en savoir un peu plus et de rencontrer cette personne qui avait un univers qui nous semblait vraiment singulier.
Alors cet univers singulier et cette personne à rencontrer, vous avez eu justement avec les ateliers que vous avez pratiqués et ceux qui vont encore arriver, y compris peut-être après la publication de l'album ou avant, enfin en tout cas je pense qu'il y aura probablement une suite à sa présence à Marseille. Karen, comment ça se passe avec le public? Est-ce que cette accroche, cette singularité qu'on a pu repérer du côté du jury, je dirais, au moment de la sélection, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le jeune public ou les adultes ont été également séduit par ces tentatives de diffuser ou de faire toucher du doigt, en quelque sorte, matériellement, cette simplicité qui n'est pas de la naïveté?
Oui, je pense que Charline est quelqu'un qui aime beaucoup partager. Et ça s'est ressenti dans les différentes expériences qu'on a déjà eues avec elle, surtout au niveau technique, parce que c'est vrai qu'elle amène des choses que nous, on ne connaît pas forcément. Donc elle a mis en place différentes initiations, puisque les enfants qui ont participé à l'atelier qui a été fait ici au studio et qui va se dérouler là à la réserve à bulles samedi, ils vont pouvoir faire de la gravure. Plusieurs initiations, c'est-à-dire gravure, aplat de couleurs, dégradé, de la peinture floue, comme elle fait dans ses images, pour avoir des effets qu'on ne peut pas avoir tout seul, puisque elle a tout un travail derrière elle, qu'elle avance dans ses recherches, elle expérimente des choses. Et elle fait partager tout ça, en fait. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir soi-même découvrir ces outils-là et aussi de les faire, de voir comment les enfants s'en emparent et aussi ce qu'eux peuvent imaginer, ce qu'ils peuvent créer avec ces pinceaux et ces couleurs et aussi cette matière, parce qu'en fait, elle a vraiment un sens de la composition. Et des couches et des superpositions. Enfin, elle travaille beaucoup là-dessus et ça, c'est très intéressant, je pense, pour les enfants, parce que quand on voit une image, quand on voit ce qu'elle fait, on ne soupçonne pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Et donc, ça aussi, ça fait partie des temps qui ont été mis en place, c'est de creuser un peu l'image et de refaire un peu à sa manière ou alors la détourner, mais en tout cas que ça puisse vraiment leur donner leur ouvrir des portes et leur montrer que, très simplement, parce que c'est pas des outils compliqués, hein, ils peuvent aussi s'engager là-dedans et créer leur propre paysage ou leur propre univers qui peut être un peu magique, parce qu'il y a un côté un peu magique dans ses choix, dans ces ambiances.
Effectivement, il y a un aspect un peu archéologique à la fois de passer couche après couche, mais aussi d'en retirer certaines.
Oui, pour créer les constellations là, qu'on voit dans ces images, c'est en fait d'une sorte de gomme collante qu'elle met en première couche, et ensuite, après, quand la peinture passe dessus, on peut les enlever, on peut former tout ce qu'on veut, et ça fait comme des petits points brillants qui se retrouvent au premier plan.
Eh ben voilà, ça c'est une bonne manière de pouvoir faire voir l'image par la radio, ce qui n'est pas évident. On s'exerce beaucoup durant cette émission à essayer de décrire des images par les mots et ça fonctionne un peu, mais je pense que le mieux évidemment c'est de venir voir ce travail ici. Alors la Terna Magica sera terminée au moment où cette émission sera diffusée, mais on pourra probablement voir d'autres expositions intéressantes en début de l'année 2017 déjà. Peut-être juste un mot sur une ou deux choses, peut-être en lien avec...
Justement avec Charline, comme elle va revenir même au printemps pour d'autres projets. Du coup, je pense qu'il y aura vraiment la possibilité de voir le livre dans son aboutissement total et dans sa forme, dans son objet réel, puisque là, pour l'instant, on n'a que des aperçus, mais elle pourra éventuellement le présenter, on pourra le faire découvrir aussi à notre public.
Et c'est vrai que sinon, le studio, comme Karen le disait tout à l'heure, présente le travail de Fred Unjapour jusqu'au 22 janvier. Et ensuite, on a aussi un travail sur l'image qui va être assez intéressant avec la présentation durant le mois de février du travail de Super Terrain, qui est un collectif de graphistes nantais et qui va présenter ici une centaine de lithographies et travailler aussi sur place, donc une forme de résidence là encore, mais très courte, puisqu'ils seront là pendant une semaine ou deux à Marseille, durant une pérégrination qui va les conduire aux quatre coins de l'Europe. Et Marseille sera la première étape et on les accueille dans notre lieu. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup et bonne fin de festival. Voilà, pour maintenant, pour aujourd'hui, puisque, comme je disais, quand on entendra cette émission, ça sera déjà fini et vous serez déjà probablement sur la programmation de la suivante. Merci beaucoup Vincent, merci Karen.
Merci.
Merci.
C'est reparti avec les dernières questions de ce petit questionnaire ludique. Je voudrais bien, puisqu'on parlait de langage tout à l'heure, avec les onomatopées, t'interroger sur justement ces tocs, ces habitudes, ces mauvaises habitudes de langage, un mot, une phrase, un proverbe, une expression utilisée par d'autres, ou par toi d'ailleurs, qui t'agace. Et du coup, je vais un peu compléter la question parce que je me dis que, après tout, il y a aussi des tics et des tocs de langage dessiné, peut-être qui t'agacent, que tu remarques chez les autres, qui ont des espèces de clichés, pas uniquement dans les mots, mais aussi dans les illustrations, dans les images. Est-ce que sur ces deux choses-là, il y a des choses, qu'il y a des points que tu aimerais évoquer? Peut-être le langage d'abord, une expression qui t'énerve par exemple.
Alors là, c'est très compliqué, j'ai rien qui me vient à l'esprit.
D'ailleurs, tu n'avais pas répondu à cette question, non, c'est pour ça que je la pose maintenant, c'est parce que je veux une réponse.
Ça m'agace.
Des journalistes qui te posent des questions sur le langage par exemple.
Oui, alors peut-être... je crois que je vais botter en touche.
Botter en touche. Même en politique, même à la radio, il n'y a pas des trucs qui t'énervent.
Qui m'énerve. J'aime un peu trop la radio, en fait. j'ai rien à balancer là.
Et pour l'image ?
Et pour l'image.
Des choses qui te semblent un peu récurrentes et un peu faciles, qui t'agacent, que tu peux voir. Je dirais pas chez les confrères, mais peut-être dans la presse ou dans des choses que tu pourrais voir dans la pub. Parce que c'est vrai que le langage de l'image, on ne le connaît pas forcément.
Oui, bien sûr. Alors si, là j'ai peut-être une petite idée, parce que j'avais fait un premier mémoire aux Arts Déco de Strasbourg. Parlait de l'image à l'école et pour ça j'avais regardé un petit peu ce qui se passait dans les cartables de mes neveux et nièces et dans leurs livres scolaires et là j'étais très très agacée très agacée de constater que dans un livre, par exemple un livre de maths pour des tout petits, il y avait des photos de PlayStation et autres, et on leur montrait à quel point ça coûtait cher, mais que en calculant bien et peut-être en faisant un crédit à la consommation, ils pourraient en avoir. Voilà, donc ça, non, si, cet usage-là de l'image, me met dans tous mes états.
L'image racoleuse qui t'amène finalement vers la consommation.
L'image qui ne se rend pas compte à quel point elle est puissante, ou alors qui se rend très bien compte à quel point elle est puissante. Et voilà, ouais.
Alors, ça me permet aussi de parler de... Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué la revue Biscotto pour laquelle tu travailles. Et j'aimerais bien d'ailleurs un jour faire quelque chose avec la revue Biscotto ici, puisque c'est une revue qui justement n'est pas genrée, qui n'est pas pour les petites filles ou les petits garçons, et qui s'organise entièrement autour de la possibilité de lecture de l'image par aussi bien l'une que l'autre, ou l'un que l'autre. Et c'est pas si évident, surtout en littérature jeunesse, voilà, en production d'albums, de revues illustrées jeunesse en général. C'est les petites sorcières pour les filles et puis, je sais pas, les petits bolides pour les garçons. Et justement,
Biscotto, moi, ça fait un petit moment que j'ai
plus participer parce que bon, c'est une revue associative et il y a un moment donné où il fallait, il fallait essayer de s'en sortir. Et mais c'est vrai que c'est toujours un super beau projet que je vois d'un peu plus loin maintenant. Judith Stäbler qui a monté ce projet avec une de ses amies quand on était aux Arts Déco de Strasbourg, elle aussi très engagée sur les questions de lecture de l'image. Et du coup, c'est très bien que des gens comme ça s'emparent un peu de ces revues. Et j'ai juste un petit exemple, c'est que je me souviens avoir fait des illustrations pour Histoire pour les petits, je crois, si je ne me trompe pas du tout. Ouais. Et je devais dessiner une maman, et j'avais dessiné la maman en pantalon et on m'avait demandé de la rhabiller en robe. Bon, bah, j'ai pas retravaillé pour depuis, voilà.
T'as pas oui. Mais... Bon, bah, comme agacement, je pense.
Bon, ils m'ont
pas
rappelé non plus. Hein. Pas...
Bon, bah, bien fait pour eux. Alors, on s'approche de la fin et j'aimerais que tu me parles aussi, tu l'as vaguement dit déjà, d'endroits où tu aimes bien lire ou écrire, ou dessiner, peut-être là, dans ce cas-là. Et je m'appuie sur ça, sur ce mot inventé par une auteure qu'on a reçue ici en résidence, qui s'appelle Anne Savelli, qui a inventé le terme d'oloé. C'est-à-dire un oloé, c'est un endroit où lire ou écrire, donc un endroit où il fait bon lire ou écrire, qu'on peut choisir un peu partout dans le monde. Est-ce que toi, tu as un endroit particulier ?
Y a plein d'endroits dans lesquels je me suis sentie assez bien pour lire et écrire, et plein d'endroits aussi où j'ai eu beaucoup de mal et à dessiner surtout. Mais c'est vrai que quand je retourne, et je vais encore reparler de la Franche-Comté, mon Dieu, quand je retourne dans ma famille en Franche-Comté, dans ce petit village très calme, je me sens assez bien pour dessiner. Ouais, c'est une petite retraite bien agréable.
Une tranquillité, d'esprit et de paysage,
exact,
peut-être aussi.
Et de paysage,
parce que c'est doux le paysage en Franche-Comté.
Surtout dans le Doubs.
Surtout dans le Doubs. C'était pas fait exprès. Une bonne résolution pour terminer, pour cette résidence.
Une bonne résolution, je crois que j'en avais mis une dans la revue. Oui, qui était d'essayer de ne plus confondre l'eau des pinceaux avec mon café ou mon thé, je crois que c'était ça. Non, mais sans blaguer, une bonne résolution, c'est justement d'essayer de prendre le mois, le mois qui me reste.
Maintenant c'est passé.
Voilà, maintenant c'est passé. Mais, d'essayer toujours de se dégager des temps sans discontinu, sans coupure, pour pouvoir essayer de faire mettre les choses tranquillement.
Ça marche, ça avance, malgré tout. C'est pas terminé, évidemment, à la fin de la résidence. Mais...
Non, mais, oui. Mais ça, c'est pas un problème. L'important, c'est que les choses soient un petit peu lancées.
Non, mais sans blaguer, tu as déjà bu l'eau à la place du café.
Ah oui, mais je pense que tous les illustrateurs, en tout cas tous mes amis, connaissent bien ça.
Bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Charline Colette. Bonne chance pour la fin de ce travail. Et puis, on se reverra à Marseille de toute façon pour... faire d'autres choses avec Photokino, avec le soleil, et pour la sortie du livre aux éditions L'Artichaut. Voilà, c'est la fin de cette émission avec Charline Colette. Le prochain invité est l'écrivain équatorien Felipe Troya, le jeune lauréat du prix de la jeune littérature latino-américaine, dimanche 28 janvier à 10h. Bonne fin d'année. La première chose que je peux vous dire est une revue, radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Émile Ajar. Production, Radio Grenouille et La Marelle. Présentation, Pascal Jourdana. Voix, Manon et Violette. Suivi de production, Fanny Pomared, La Marelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille. À la technique, Sébastien Gély.
La Marelle est une structure hébergée à la friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.